Dragon, SpaceX, separation confirmed.
Retour sur Terre réussi pour la capsule SpaceX. Pour la toute première fois, une société privée réussit à ramener des astronautes de la Station Spatiale Internationale. On vous emmène au cœur du centre de contrôle de SpaceX dans un instant. Masque obligatoire si vous sortez dans les rues de la métropole de Lille ou de 69 communes de Mayenne à partir de ce matin. Nouveau tour de vis contre la reprise du virus, notamment chez les jeunes qui rechignent toujours à se protéger.
On a passé 2 mois confinés. Là, c'est l'été. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas s'arrêter de vivre juste parce que y a une resurgence. Parce que dans tous les cas, ça va revenir.
Dans ce journal également, vigilance maximale aux incendies dans le sud-est. Nous serons en direct avec les pompiers du Var. 2 ans après l'effondrement, Gênes inaugure son nouveau viaduc. Où en sont les ponts français?
Mais sont-ils mieux surveillés, mieux entretenus depuis cet accident? À 7h40, je pose la question à l'ingénieur Michel Virlogeux, grand spécialiste et concepteur notamment du viaduc de Millau.
Le public déserte toujours les cinémas dans l'Hexagone. Le Grand Rex ferme pour 1 mois, c'est une première. Mais vos vacances en France, vous les passez peut-être à la montagne? On ira prendre le grand air dans le Vercors.
C'est grandiose, c'est impressionnant, on se sent tout petit. On a acheté les bonnes chaussures de rando et puis c'est parti.
Juste après le journal, l'immobilier, malgré la crise, les prix ne baissent pas. Ce sera l'édito éco d'Étienne Lefebvre. Et puis le casse-tête des tests Covid, il y en a en stock. Alors pourquoi est-ce si compliqué de se faire dépister? Question posée par le docteur Jimmy Mohamed. Bon réveil à vous, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous avons écrit aujourd'hui une page d'histoire. Voilà ce qu'a dit cette nuit le patron de la NASA après le retour avec succès de 2 de ses astronautes à bord d'une capsule privée, la capsule Crew Dragon de la société SpaceX. C'est une première et un partenariat qui pourrait ouvrir la voie à d'autres vols à habiter plus réguliers.
Et donc à la fin de la dépendance américaine aux lanceurs russes pour rejoindre cette station spatiale internationale. Un récit de ce retour sur Terre depuis le centre de contrôle SpaceX, c'est en Californie. Benoît Clair.
Il y a 45 ans que les Américains n'avaient pas vu ces images fabuleuses. La capsule SpaceX Dragon Endeavour, accrochée à 4 immenses parachutes et amerrissante en douceur dans le golfe du Mexique. Moins de 20 heures après avoir quitté la station spatiale internationale.
Dragon, SpaceX, separation confirmed.
Doug Hurley et Bob Behnken ont désorbité la capsule au-dessus de la Nouvelle-Zélande, plongeant dans l'atmosphère à plus de 650 km à l'heure, 37 minutes de descente avec une pression de plus de 3,5 G. L'extérieur du véhicule s'est alors échauffé à plus de 1900 degrés et c'est à ce moment que survient le blackout, 6 longues minutes sans aucune communication radio. On a alors vu Elon Musk, le fondateur de SpaceX, les mains jointes, le regard collé sur ses écrans de contrôle, jusqu'à ce que la liaison revienne enfin. Puis arrivent les déploiements de 2 immenses parachutes, suivis de 4 autres qui freinent la descente de l'engin à moins de 15 km à l'heure pour arriver au splashdown, l'amérissage, à l'endroit choisi et à l'heure prévue. Et c'est un ouf de soulagement pour Gwynne Shotel, la présidente de la firme.
Oui, c'est indiscutable. C'est un immense soulagement après des mois d'anxiété pour être sûr que nous ramènerions Bob et Doug en toute sécurité à la maison.
Une autre mission au printemps prochain emmènera la propre femme de Bob Behnken, l'astronaute Megan MacArthur, qui partira pour 6 mois dans la station spatiale internationale avec le spationaute français Thomas Pesquet. Au centre de contrôle de SpaceX, à Hawthorne, en Californie, Benoît Clair, Europe 1.
Voilà pour le récit d'un moment d'histoire.
Et pour certains d'entre vous, c'est justement l'impression de sortir équipé un peu comme un cosmonaute. Mais ce n'est pas une excuse. Le masque est désormais obligatoire à partir de ce matin dans certaines rues de la métropole de Lille. Même chose dans 69 communes de Mayenne ou encore à Biarritz.
Objectif, freiner la circulation du virus qui s'accélère notamment chez les 20-30 ans, accusés par beaucoup de trop se laisser aller sur les gestes barrières.
Accusation depuis plusieurs jours. Eh bien, il faut croire que ça ne leur fait ni chaud ni froid. Écoutez le reportage de Sarah Calamand.
Du coup, ouais, non, on se fait la bise, on va pas faire plus attention qu'avant parce qu'on sait que même si on l'a, nous ça nous touche pas.
Face aux accusations, Amaury assume. Quand il retrouve ses amis étudiants en bord de Seine avec du rosé, il prend le risque d'être contaminé, mais il l'assure, il ne met pas en danger ses proches.
Si je connais quelqu'un qui a des antécédents médicaux, je sais que je vais faire beaucoup plus attention. On ne veut absolument pas se retrouver dans une situation où on fait partie des gens qui provoquent des secondes vagues, parce qu'encore une fois, on a passé 2 mois confinés. Là, c'est l'été, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas s'arrêter de vivre juste parce que y a une résurgence parce que dans tous les cas, ça va revenir.
Inès et Agnetta, qui ont à peine 20 ans, sont aussi persuadées que cette seconde vague arrivera. Mais elles réagissent très différemment. Elles continuent à se protéger le plus possible. Certes, elles se retrouvent pour jouer aux cartes dans un parc, mais elles garantissent que c'est leur seule entorse aux gestes barrières.
Quand on est avec nos proches, on se protège comme on peut, on met le masque. J'évite de voir beaucoup de monde ou vraiment les transports aussi, j'essaie d'éviter.
Mais après, même dans le métro, c'est compliqué de faire attention parce que même si on a le masque, on est tous collés. Donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose finalement.
Elles considèrent donc qu'elles ne se relâchent pas, mais elles le reconnaissent. Difficile de se rendre compte du risque de contagion quand on n'a jamais été malade.
Un reportage de Sarah Calamand pour Europe 1. Et c'est toujours le casse-tête sur le front des tests. Toujours très difficile de se faire dépister. 500 000 tests réalisés par semaine, mais encore de nombreuses files d'attente devant les laboratoires. On va en parler avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, tout à l'heure à 7h20, votre rendez-vous santé.
Tandis que la Belgique interdit les voyages non essentiels vers plusieurs zones à risque ce matin, comme Barcelone ou chez nous, le département de la Mayenne.
Europe 1, 7h06.
Un sol sec, chaleur, mistral, tous les éléments sont réunis à un risque d'incendie maximal dans le sud-est.
Tous les massifs du Var sont fermés au public, comme ceux des Bouches-du-Rhône, où des renforts de pompiers sont même déployés, Stéphane Frangy.
Sur le qui-vive, depuis sa tour de contrôle, le capitaine Stéphane Guyot, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, le sait bien, le risque incendie vient de monter d'un cran.
C'est un point de bascule avec une hausse des températures, un stress hydrique des végétaux, le mistral annoncé jusqu'à mercredi, ce qui va nécessiter une mise en place des moyens adaptés à ce niveau de risque, à peu près 1000 sapeurs-pompiers prêts à lutter contre les départs de feu.
Des renforts arrivent d'autres départements, certains sont en caserne, d'autres déployés par groupes de 2 camions sur le terrain, positionnés sur des points stratégiques, ce qui peut s'avérer décisif. Comme ce départ de feu en pleine campagne près d'Aix-en-Provence, le lieutenant Michael Chaban est rapidement sur les lieux avec ses hommes pour noyer ce départ de feu.
Un poteau électrique, là, ça fait des étincelles, ça tombe au niveau du sol et le feu a rapidement pris de l'ampleur, 6 000 m². Oui, ça va vite, mais heureusement qu'on avait un premier fourgon prépositionné qui est arrivé le premier sur les lieux, très rapide. Pour moi, 3 gardes successives, 3 départs de feu.
Un été à risque donc, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont déjà enregistré 400 départs de feu depuis début juillet. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Et nous sommes en ligne ce matin en direct avec le capitaine des sapeurs-pompiers du Var, Olivier Pécaud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. On l'entend, hein, tous les massifs de votre département sont en alerte maximale, risque d'incendie. Quelle est la situation ce matin ?
Alors la situation ce matin est inquiétante parce que le cocktail météo pour que des feux se développent est important. Hein. Nous sommes confrontés à de fortes températures.
Pas de départ de feu signalé à ce stade.
Pour l'instant, nous avons rencontré un mois de juillet relativement calme sur le front des incendies. Nous avons fait face à quelques départs de feu que nous avons rapidement maîtrisés. Néanmoins, cette journée de lundi et demain mardi, le Mistral va souffler relativement fort sur le département, qui nous inquiète pas outre mesure, mais nous préparons à toute éventualité, puisque nous déployons un dispositif conséquent préventivement sur le terrain pour être plus rapide sur les départs de feu.
Vous le disiez, les éléments sont réunis, hein, chaleur, très faible humidité, le vent aussi, le Mistral qui souffle. Outre le fait évidemment de ne pas jeter son mégot de cigarette en voiture ou en randonnée, quelles consignes donner, quels gestes adopter pour tout un chacun pour éviter des départs de feu ?
Alors la prudence, bien évidemment. Les cigarettes sont une cause importante de départ de feu par des gestes de négligence. Hein, quand voilà, c'est vraiment incivique de jeter une cigarette par la portière ou quand on marche. Les feux de cuisson de style barbecue, que ce soit sauvage ou même avec des équipements, sont strictement interdits en massif forestier ou à moins de 200 mètres de tout massif forestier. Et certains massifs sont interdits à la circulation de véhicules automobiles, puisqu'un démarrage de véhicules peut provoquer quelques étincelles et provoquer un départ de feu à l'insu du conducteur.
Voilà, prudence, hein, maximale, hein, si vous résidez en ce moment dans le sud-est de la France et particulièrement dans le Var. Merci Olivier Pécaud, capitaine donc des sapeurs-pompiers du Var. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
Et aux États-Unis, plus d'un millier de pompiers tentent toujours de contenir un gigantesque incendie. Là aussi, en Californie, près de Los Angeles, 8000 personnes ont dû être évacuées.
Il est 7h10, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
C'était il y a bientôt 2 ans. C'était le 14 août 2018 à 11h36. Le pont Morandi s'effondrait à Gênes, en Italie, faisant 43 morts. Ce pont a été rebâti
rebâti en un temps record et un nouveau pont est inauguré cet après-midi.
Et on s'en souvient, cette catastrophe avait entraîné une prise de conscience aussi en France. Un rapport sénatorial révélait que 25 000 de nos ponts présentaient un danger. Un plan de 130 millions d'euros avait été débloqué, mais deux ans après, rien n'a changé. C'est ce que déplore Hervé Maurey, le sénateur de l'Eure qui avait mené cette mission.
Quand on sait qu'il y a 10% des ponts, c'est-à-dire 25 000 ponts en France qui présentent un risque d'effondrement, c'est pour le moins léger de ne pas avoir pris nos préconisations plus à cœur. Nous avions, dans la loi de finances pour 2020, créé un fonds destiné à aider les communes à faire un diagnostic de leurs ponts, puisque la plupart des ponts sont sous la responsabilité des communes et sont dans un état particulièrement préoccupant. Et ces dispositifs que nous avions adoptés au Sénat ont été purement simplement supprimé à l'Assemblée nationale à la demande du gouvernement. On n'a rien eu de concret puisque la seule annonce qui consistait à dire que l'État a lancé un recensement des ponts communaux et intercommunaux, aujourd'hui on ne sait pas du tout où ça en est, on n'a aucune information. On en appelle au sens de la responsabilité du gouvernement. Je crois que s'il y a bien un sujet sur lequel on ne doit pas jouer, sur lequel on ne doit pas faire des économies de bout de chandelle, c'est la sécurité de nos concitoyens.
Le sénateur Hervé Maurey, joint par Gian Bergaoui. Et on va en reparler juste après 7h30 à 7h40 précisément. L'ingénieur des ponts, Michel Villorgeux, sera mon invité.
C'est un miraculé de l'incendie de Notre-Dame. Le grand orgue de la cathédrale va être démonté à partir de ce matin. Près de 8000 tuyaux à débarrasser de leur poussière de plomb, à décontaminer aussi. Un chantier qui devrait durer 4 ans. Le cinéma du Grand Rex lui ferme ses portes à Paris tout le mois d'août. C'est une première, signe des difficultés toujours pour de nombreuses salles obscures. Le public n'est pas revenu avec les craintes autour du virus. 6 millions d'entrées le mois dernier, c'est 3 fois moins qu'en juillet 2019.
Bonjour Richard Patry.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Vous dirigez la Fédération du cinéma français. Les salles sont à ce point vides de spectateurs en ce moment qu'il n'est même plus rentable d'ouvrir. C'est ça qui est en train de se passer ?
Alors, dans certains cas, oui. Si vous prenez le Grand Rex, comme vous venez d'en parler, bien sûr, une salle de 2800 places, vous imaginez que quand il y a que quelques centaines, voire dizaines de spectateurs, c'est très difficile de la maintenir ouverte. Bon, à côté de ça, il y a quand même 90% des salles qui restent ouvertes, qui tiennent le coup. Néanmoins, on fait, allez, pour donner un grand chiffre, on fait à peu près 1 million d'entrées par semaine, quand l'année dernière, à la même époque, on en faisait 5. Donc, voyez-vous, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que avec 25% des entrées, c'est très, très difficile de trouver une économie rentable.
10%, une salle sur 10 qui va fermer en ce mois d'août, c'est tout de même beaucoup. Ça veut dire que c'est le Grand Rex, c'est aussi des petites salles.
Oui, c'est un peu partout sur le territoire. Actuellement, elles ont ouvert le 22 juin en étant la fleur au fusil, en jouant ce rôle citoyen qu'elles jouent à longueur d'année au cœur des territoires pour accueillir les spectateurs. À ce moment-là, il y avait des films américains dans la ligne de mire, des gros films français dans la ligne de mire. Tout ça, ça a disparu. Donc forcément, c'est un peu dur. Il y a quelques films qui sont là. Il faut remercier les distributeurs qui mettent des films. Mais néanmoins, ça ne suffit pas à avoir la large palette qu'on propose d'habitude et donc c'est un peu difficile.
Les plus grosses sorties ont été repoussées. Richard Patry, vous mettez en cause les distributeurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas joué le jeu de la réouverture des salles, ils ne sont pas là.
Clairement, il nous manque des gros films américains. Et là, les Français, ils sont pas pour grand chose, mais quelques gros films français qui eux ont aussi été repoussés et voilà, et dont même certains ont quitté complètement l'affiche pour aller sur des plateformes. Ça, oui, ça c'est clair que ça nous fait pas plaisir. Néanmoins, encore une fois, il s'agit pas de stigmatiser. On est tous dans le même bateau. On est dans une période de crise. Ce qu'il faut, c'est sauver le cinéma. Et pour sauver le cinéma, faut sauver les salles de cinéma parce que si les salles de cinéma ferment en France, l'industrie du cinéma s'écroulera.
Les mesures du gouvernement sont suffisantes pour aider les cinémas aujourd'hui? Est-ce que par exemple les salariés peuvent encore être au chômage partiel là, pour ces salles qui ferment en août?
Oui, elles peuvent encore être au chômage partiel. On a réclamé au gouvernement de prolonger encore ces mesures d'exonération de charges, mais il va falloir y avoir un grand plan. On n'échappera pas à un très très grand plan pour sauver le cinéma en France et les salles de cinéma. Et c'est ce que nous avons demandé à notre nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qu'à la rentrée, on ait un immense plan de soutien. Je sais que le CNC y travaille, la ministre y travaille, et il va falloir l'avoir, hein, sinon on s'en sortira pas.
Et on entend votre appel ce matin de retourner aussi cinéma pour aller voir, il y a beaucoup de films aussi qui sont en rediffusion, on ressort les vieux succès aussi pour faire tourner ces salles et ça peut être agréable, c'est climatisé aussi quand il fait très chaud.
Il y a plein de films à voir et à revoir et puis voilà, et puis il y a quelques films qui sont sortis qui vont très bien, Divorce Club tout simplement, Noir était 85, J'en passe et des meilleurs, il y a plein de choses à voir quand même au cinéma, mais c'est vrai qu'il nous manque quelques gros blockbusters, ça on peut pas le nier.
Et avec des mesures de distanciation hein, qui sont prises bien sûr dans les salles, on le rappelle. Merci Richard Patry, président de la Fédération
Fédération Nationale des Cinémas. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1.
On l'aura compris, vous êtes peu nombreux dans les cinémas, mais vos vacances en France, vous les passez pour beaucoup à la montagne, direction le Vercors pour terminer ce journal au grand air. Enfilez vos chaussures, Johanna Chabas vous emmène sur les hauteurs de Choranche en Isère.
C'est grandiose, c'est impressionnant, on se sent tout petit. On a acheté les bonnes chaussures de rando et puis c'est parti.
Normalement, Karine, venue d'Île-de-France, serait allée à la plage pour ses vacances. Cette année, elle a préféré l'air frais de la montagne. Elle n'est pas la seule, les chemins de terre sont fréquentés, mais pour Patricia, le randonneur le plus proche est encore à bonne distance.
C'est tellement vaste que finalement, pas spécialement besoin du masque. On n'a pas besoin de le mettre comme sur les plages qui sont les uns collés à côté des autres, où on a eu beaucoup d'interdiction aussi.
Sur les chemins de randonnée, des vacanciers de passage, mais aussi de nombreux locaux qui s'autorisent seulement une escapade. Marc, qui vit près de Grenoble, le reconnaît. C'est aussi la gratuité des activités en montagne qui attire.
Si on avait pu partir ailleurs, on serait parti. Hein. Faut pas faire des mots. Le confinement a fait que les gens, là, financièrement, ils n'avaient pas les moyens de partir ailleurs. Hein.
Ils longent les falaises en voiture et s'arrêtent dès que possible pour prendre des photos, émerveillés par les paysages de sa région. Pour les sites touristiques, ici, cette présence de touristes et de locaux fait presque oublier l'absence de voyageurs étrangers. Choranche, Johanna Chabas, Europe.
Voilà, Choranche aussi connue pour sa très belle grotte et ses stalactites pour ceux qui aimeraient se mettre un peu plus encore à l'abri de la chaleur.
Voilà pour des idées de sortie. C'était le journal de Théo Manval, le prochain journal à 7h30 avec Sophie Tussaud.